spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromit się w Europie.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Après l'annexion de la Crimée, Moscou envoie désormais des troupes dans le Donbass avec un objectif clairement affiché, déstabiliser l'Ukraine. Pour Vladimir Poutine, le responsable de la crise ukrainienne est tout trouvé, c'est l'Occident. Mais en exaltant dans ses discours un sentiment patriotico-nationaliste, alors que la situation économique se dégrade du fait notamment de la baisse des cours du pétrole, Vladimir Poutine joue-t-il la carte du retour de la guerre froide? Que veut exactement Monsieur Poutine? Eh bien, je vais poser la question à nos invités. Je vous les présente. Andrei Gratchov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, écrivain. Votre dernier livre, Le passé de la Russie est imprévisible, est édité chez Alma Éditeur. Le sous-titre, c'est Journal d'un enfant du dégel. Il résume en une phrase votre vie. Vous avez été soviétique, russe, et aujourd'hui très français.
Oh, je reste quand même un peu de russe. Oui, c'est... Je dirais peut-être mon passé russe m'attend encore dans mon avenir.
Frédéric Pont, bonjour, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, auteur de Poutine chez Kalman Levy. Curieusement, pas de sous-titre à votre ouvrage. J'aurais volontiers imaginé Poutine un patriote.
Non, c'est pas utile. Poutine, tout le monde le connaît. Il est très célèbre, mais très mal connu. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre sur lui. Poutine en tant que tel, c'est comme si on disait Staline, Kennedy, De Gaulle. Ça suffit.
Hollande?
Non, pas du tout.
Igor Reshtyniak, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre, vous êtes ukrainien et vous êtes membre du collectif Euromaïdan. Par définition, lorsqu'on est ukrainien, on s'intéresse de très près à ce que fait M. Poutine.
Effectivement, finalement, le destin de l'Ukraine a été toujours très lié au destin de la Russie. Et effectivement, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est toujours très influencé par ce qui se passe et ce que fait Poutine actuellement.
Et à Strasbourg, par téléphone, nous rejoignons Laure Delcourt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une grande spécialiste de la Russie, vous êtes chercheuse à l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Alors, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 14 ans. Il a fait part de son désir de rester à la tête de la Russie jusqu'en 2024. À peu près, hein, évidemment.
Non, il faut qu'il soit... Il y a une élection en 2018 et il faut qu'il soit élu à nouveau pour 6 ans pour pouvoir gouverner la Russie jusqu'en 2024.
Il a émis le désir, en tout cas. Hein. Oui. C'est pas encore fait, mais en tout cas, il a émis le désir. En tout cas, au début des années 2000, tout le monde s'interrogeait qui est ce Vladimir Poutine venu de nulle part. Est-ce qu'il est plus facile de répondre à cette question aujourd'hui, Frédéric Ponce?
Oui, parce que nous le connaissons depuis 14 ans. Nous avons un certain nombre d'éléments d'appréciation complémentaires sur sa biographie, sur ses amis, sur ses réseaux, sur sa politique, la politique qu'il mène depuis 14 ans. Mais malgré tout, Poutine reste un homme très secret, un homme de coup, et ça ne date pas d'aujourd'hui ni de sa prise de pouvoir en 2000. Depuis tout petit, c'est ce que j'ai découvert dans ce livre, Poutine est un garçon, un jeune homme extrêmement secret, extrêmement timide et qui a souvent désarçonné les gens de sa famille, comme plus tard il désarçonnera ses interlocuteurs occidentaux jusqu'à la crise de ces derniers temps.
C'est pour ça, peut-être Andrei Gratchov, qu'il a fait une grande partie de sa carrière au KGB, où il était quelqu'un de relativement terne. On ne sait pas grand-chose de sa période au KGB. On sait qu'il a été positionné en Allemagne de l'Est. Mais enfin, c'est pas du tout SS-117 ou James Bond, hein, Vladimir Poutine.
Bon, écoutez, du temps de l'URSS, normalement, les espions, surtout du côté de froid, ils ne s'exposaient pas beaucoup et surtout, ils ne se prêtaient pas beaucoup à des interviews dans les médias. Ça faisait partie de leur fonds de commerce, ce qui est normal. Mais moi, par contre, cherchant la réponse à la question qui est Monsieur Poutine, je me reposerai dans une autre forme. Lequel des Monsieur Poutine, puisque j'en ai pu observer plusieurs, un qui remplaçait l'autre, et finalement on ne sait pas lequel est le vrai, et s'il y a un vrai derrière toutes ces apparences.
Et c'est ce qui trouve bien des observateurs. Alors, Laure Delcourt, qu'est-ce que vous diriez de Vladimir Poutine, comme ça en quelques mots tout de suite?
Je serais assez d'accord avec ce que vient de dire M. Gratchev, c'est-à-dire que on connaît en effet Vladimir Poutine depuis 15 ans, depuis qu'il a été nommé Premier ministre à l'été 1999. Et en même temps, ça n'est pas plus facile de le cerner maintenant, parce qu'il y a en effet plusieurs Vladimir Poutine. Il y a eu plusieurs inflexions importantes au cours de ces 15 ans, plusieurs ruptures, plusieurs tournants. On en a vu encore un au cours de l'année 2014. Donc, il est important de garder à l'esprit toutes ces inflexions dans la politique tant intérieure qu'internationale de Vladimir Poutine depuis 15 ans.
Alors, Gorbatchev, je vous mets un rôle de composition, un jeu de rôle. Si on se met dans la tête de l'homme fort du Kremlin, vous qui êtes ukrainien, comment expliquer l'invasion puis l'annexion de la Crimée ?
Je pense que Poutine, il a un grand projet dans sa tête. Je pense qu'un de ses projets, c'est justement d'essayer de faire de la Russie de nouveau une puissance au niveau mondial, ce qu'elle n'est certainement pas en ce moment, ou du moins, elle n'a peut-être pas tout le potentiel pour l'être. Et donc, lui, ce qu'il veut par rapport à l'Ukraine, c'est de montrer encore une fois qu'il est très influent, que ça soit par rapport à ses partenaires ou ses ennemis ou tout le monde à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Alors je précise que vous êtes ukrainien et que vous êtes membre du collectif Euromaïdan, ce que je n'avais pas signalé dans mon introduction, évidemment très proche des autorités aujourd'hui de Kiev, en tout cas dans une européanisation de l'Ukraine, on peut résumer ça ainsi. Alors l'annexion de la Crimée puis la quasi-guerre dans le Donbass où les troupes russes ne sont pas officiellement impliquées, même si tous les observateurs démentent cette version, ont généré des sanctions de la part des Occidentaux, des Américains et des Européens. Interprétation de ces sanctions par Vladimir Poutine en personne, c'était le 4 décembre dernier à l'occasion de son discours annuel à la Nation.
À propos des sanctions, elles ne sont pas une simple réaction nerveuse des États-Unis ou de leurs alliés à notre position concernant la situation actuelle et le coup d'État en Ukraine. Elles ne sont pas la conséquence de ce que l'on appelle le printemps de Crimée. Je suis convaincu que même si tout ceci n'existait pas, un autre prétexte aurait été trouvé pour ralentir la croissance de la Russie, l'influencer et, pire, l'utiliser dans ses propres intérêts.
André Gratchev, comment interpréter ces propos ? Est-ce qu'il y a, de la part de Vladimir Poutine, l'homme fort du Kremlin, un sentiment de persécution ?
Écoutez, c'est assez étonnant d'entendre cette version, parce que quand j'évoquais plusieurs Vladimir Poutine, je faisais référence à, par exemple, à ce Vladimir Poutine que je qualifierais d'être le premier, Poutine l'Américain, Poutine aux yeux duquel, dans la profondeur des yeux duquel, George W. Bush a trouvé une âme proche, ou une âme parent, de toute façon amie ou presque. Ensuite, on a connu un Vladimir Poutine européen qui n'a pas hésité de faire une troïka avec Jacques Chirac et Schröder, le chancelier allemand, au moment de l'invasion anglo-américaine en Irak. Maintenant, on découvre Poutine eurasien. Et voilà, c'est ce troisième Poutine qui découvre d'un coup, en quelque sorte, en oubliant les deux précédents, le fait que l'Occident est dès le départ, depuis, je ne sais pas, la nuit des temps, dirigé contre la Russie, et ne cherche que l'affaiblir, que la mettre sur les genoux. Ça contredit, je ne parle pas évidemment de mon appréciation de ses propos, mais à mon avis, ça contredit ses propres propos d'il y a quelques années.
Frédéric Ponce, pardon.
Merci.
Est-ce que vous diriez, comme Vladimir Poutine, que le monde entier en veut à la Russie ?
Non, c'est pas exactement ça. En même temps, ce discours n'est pas nouveau et n'est pas surprenant. Ou alors, il est nouveau et surprenant pour les gens qui n'ont pas voulu voir et comprendre ce que disent les Russes depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis la chute du mur de Berlin, 1990, et depuis l'effondrement de l'URSS. Les Russes, et Poutine notamment, disent qu'ils ont l'impression claire et nette d'avoir perdu la guerre froide et d'avoir vu leur ancien ennemi ne pas cesser de progresser vers leurs frontières. Leur ancien ennemi, c'est évidemment l'Amérique, c'est l'OTAN, et toute la stratégie des Russes depuis 1990, et ça s'inscrit donc dans la longue durée jusqu'à aujourd'hui, et ça explique ce discours de Poutine, c'est que ils ont dit non, ils ont refusé cette expansion de l'OTAN vers l'Est de l'Europe, c'est-à-dire la Pologne, les Pays-Baltes et toutes les anciennes démocraties populaires. Les Russes n'en voulaient pas. Mais jusque dans les années 2000 et quelques, les Russes étaient incapables de résister, de réagir. Le pays était trop affaibli, le pays n'avait pas de leadership politique suffisant pour dire non aux Américains. Eh bien, on a assisté avec l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000 à cette résurgence, le début de la résurgence de la puissance russe. Il a fallu quelques années pour que les Russes commencent à dire non, à dire niet. Et le premier niet, ça a été 2008, la guerre en Géorgie, quand les Russes ont compris que les Américains allaient installer l'OTAN en Géorgie. Ça a été le premier niet. Et le deuxième majeur, c'est 2013-2014, c'est cette année, quand ils ont dit aux Américains et à l'Europe en conséquence, pas d'alliance atlantique en Ukraine. C'est pas tellement le problème de l'intégration à l'Union européenne qui gêne les Russes, c'est la perspective de voir l'Ukraine demain très vite intégrer l'OTAN et d'avoir des bases américaines en Ukraine, comme il y a aujourd'hui des installations américaines en Pologne et dans les Pays-Baltes.
Alors, Igor Reshchenyak, évidemment, il y a une tendance à l'européanisation de l'Ukraine. Je rappelle que vous êtes ukrainien, mais pour autant, l'adhésion de l'Ukraine et à l'Union européenne et à l'OTAN n'est pas d'actualité.
Effectivement, et même si on regarde les sondages, c'est justement grâce à Poutine que l'Ukraine, maintenant, elle veut rejoindre l'Union européenne et elle veut rejoindre l'OTAN. On peut très bien regarder les sondages d'il y a 2-3 ans. La vie des Ukrainiens n'était pas favorable à l'adhésion à l'OTAN.
Non, mais attendez, Igor, là, soyons précis, ça fait plusieurs années, avant même la crise de Maïdan, que des think tanks ukrainiens et des think tanks américains, et donc le Département d'État américain, réfléchissent à une intégration possible à long terme de l'Ukraine dans l'OTAN, comme ça avait été fait pour la Géorgie. On l'oublie aujourd'hui, mais c'est une réalité. Et les Américains ont massivement investi. Ils ont donné le chiffre. 5 milliards de dollars pour aider la révolution ukrainienne anti-russe. Ils ont investi pour pouvoir faire de l'Ukraine un partenaire de l'Amérique.
Attendez, mais vous parlez des intentions américaines, pas de l'esprit des Ukrainiens. C'est pas pareil.
Oui, non, mais.
Et de ce point de vue, Igor, à mon avis, a raison de nous rappeler qu'il y a encore quelques mois, et peut-être même actuellement, l'Ukraine, selon la décision formelle du Parlement de l'Ukraine, reste un pays à vocation non alignée.
C'est en train de changer, vous le savez bien. Il y a des déclarations au Parlement ukrainien de la semaine dernière qui disent exactement le contraire. Les Américains font le forcing en ce moment. Ils ont envoyé des dizaines de délégations de parlementaires, de congressistes, des fondations américaines qui sont allées en Ukraine pour essayer de convaincre les Ukrainiens que leur avenir s'inscrit dans l'alliance américaine.
Et à votre avis, l'action de Poutine n'y est pour rien dans ce changement de l'humeur des Ukrainiens?
Mais ça date d'avant l'invasion de la Crimée. Ça date d'avant cette volonté américaine de récupérer. Et bien sûr.
Frédéric Ponce, est-ce qu'on peut nier à l'Ukraine, qui est un pays souverain, de choisir sa propre politique et son propre destin?
Mais bien sûr que non. Mais autant il faut respecter la souveraineté de l'Ukraine, comme celle de la Russie et de tous les autres pays, bien évidemment. Mais il ne faut pas être naïf. On est en ce moment dans un jeu stratégique, géopolitique et stratégique extrêmement dur dans l'Est de l'Europe, où l'on voit l'Amérique qui pousse ses pions au nom de ses intérêts, pourquoi pas, où l'on voit l'Europe qui suit parce qu'elle n'a pas de ligne politique, elle n'a pas de stratégie, et la Russie qui elle aussi est en train de restaurer son pouvoir, essaie de se ménager une sorte de glacis stratégique à l'ouest, c'est-à-dire l'Ukraine, et à l'est vers la Chine et l'Asie centrale. Chacun est dans son intérêt. Ce que on peut regretter, c'est que l'Europe est brinque-ballée, l'Europe est ballottée parce qu'elle n'a pas de ligne politique.
Alors si la tonalité du discours de Vladimir Poutine a interpellé les observateurs étrangers, elle a également surpris les journalistes russes, du moins certains d'entre eux. On va faire un petit détour par la rédaction de notre partenaire Courrier International. Jeffrey Lee, bonjour. Mikhail Roskovsky, du quotidien Moskovsky Komsomolet, qui en a vu d'autres au cours de sa carrière, a tout de même été interloqué par ce discours du président russe.
Absolument, Daniel. Il était notamment interpellé par la tournure biblique du discours de Vladimir Poutine, rappelant que pour la Russie, la Crimée est comme le mont du Temple à Jérusalem pour les Juifs et les musulmans. Donc, comme Rostovski souligne, de telles références historico-religieuses dans un discours d'un chef d'État laïque, cela peut sembler pour le moins exotique. Et en fait, il souligne une autre idée, c'est que désormais, la politique étrangère de Vladimir Poutine, c'est pas une ligne idéologique poursuivie par un responsable qui est là temporairement à la charge de l'État, mais que c'est comme si Poutine mène une espèce de guerre sainte, un devoir sacré pour chaque citoyen de la Russie. Et on note également l'utilisation de la grande guerre patriotique dans le discours de Poutine. C'est pour nous la deuxième guerre mondiale. On voit qu'il y a une espèce de conflit, ça monte depuis des mois et des mois entre la Russie et l'Occident. Voilà, pour Rostovski, c'est plus un conflit local, déterminé par une cause précise, mais c'est une espèce d'affrontement pour Poutine absolu entre le bien et le mal. Et voilà, ben, Poutine, il a utilisé la plus puissante des armes rhétoriques d'un homme politique russe. Il a dit, ça n'a pas marché pour Hitler, qui, avec son idéologie fondée sur la haine, voulait détruire la Russie. Ne devrait oublier comment tout cela peut finir.
Jerry, merci. C'est évidemment un article à lire dans le dernier numéro de Courrier International qui a consacré cette semaine un dossier à l'économie circulaire. Je ne vous en dis pas plus. Tout est dans Courrier International. Lord Delcourt, lorsque vous entendez ce commentaire d'un journaliste russe de Moskovski comme Sobolev, et on parle de guerre sainte, de cause sacrée, ça vous surprend?
Oui, la tonalité est en effet nouvelle, mais je voudrais revenir sur le rapport à l'Occident, qui, à cet égard, à mon avis, le discours de Vladimir Poutine n'est pas du tout surprenant. Il s'inscrit dans une continuité depuis la fin des années 1990. On trouve dans la politique étrangère russe une double dynamique par rapport à l'Occident. D'abord, une dynamique de contestation et de critique. Et ici, je placerai le tournant non pas au moment de la guerre en Géorgie en 2008, mais au moment de l'intervention de l'OTAN en Serbie en 1999. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu véritablement une rupture entre la Russie et en particulier l'OTAN. Et dans le même temps, on trouve une seconde dynamique qui est une dynamique de partenariat qu'on a vu se développer après les attentats du 11 septembre avec les États-Unis ou bien plus tard avec l'Union européenne. Et il faut rappeler à cet égard que dans les perceptions russes, l'OTAN et l'Union européenne ont longtemps été dissociées. C'est seulement depuis le début des années 2010-2013 que la Russie est devenue beaucoup plus critique à l'égard de l'Union européenne, notamment avec son projet de partenariat oriental dans les anciennes républiques soviétiques.
On va faire vraiment une petite pause dans quelques instants. Frédéric Ponce, d'un mot.
Oui, je partage tout à fait l'analyse de Laure. Le Kosovo est très important, les Balkans. Souvenez-vous de ce que Poutine a dit au moment de l'indépendance du Kosovo, donc en 2008, après des années après la guerre de l'OTAN. Il a dit aux Occidentaux, le Kosovo vous retombera sur la gueule. Eh bien, la Crimée et l'Ukraine, c'est exactement ça, quelques années plus tard.
Dans le même style, il voulait aussi poursuivre les Tchétchènes jusque dans
les chiottes.
Andriy Gratchov, lorsque Vladimir Poutine parle de guerre sainte, de cause sacrée, vous qui êtes habitué au discours de numéro un russe, vous êtes surpris, vous aussi?
Oui, bien sûr, puisque jusque-là, elle n'a pas utilisé cet argument. C'est vrai, Kosovo, bien naturellement, il le sortait comme la justification, comme un alibi de l'action russe en Crimée. Ce que je trouve curieux, c'est que toujours dans mes formules de Poutine précédent, c'est vrai, il a été impressionné, il a été frappé par le cas de Kosovo, sauf que dans ses mandats précédents, il dénonçait Kosovo. Il le présentait comme la violation du droit international.
Et il a fait la même chose en Crimée.
Voilà, exactement. Il insistait sur le fait que les cas de Kosovo ne devront jamais se reproduire. Alors que maintenant, le dernier, Vladimir Poutine, il s'en sert comme justification, comme une invitation à suivre l'exemple de l'Occident.
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est peut-être le leitmotiv de Vladimir Poutine. On va se retrouver dans quelques instants sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps des infos, dans 3 minutes, très exactement, on va retrouver nos invités et tenter de répondre à cette question que veut Monsieur Poutine. À tout de suite.
Cruzăm toată Europa.
Răscrucea Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, rebonsoir. Carrefour de l'Europe, deuxième partie. En exaltant dans ses discours un sentiment patriotico-nationaliste, en accusant l'Occident de tous les maux, tandis que la situation économique se dégrade, du fait notamment de la baisse des cours du pétrole, Vladimir Poutine joue-t-il la carte du retour de la guerre froide? Que veut exactement Monsieur Poutine? C'est la question à laquelle nous essayons de répondre avec nos invités. Je vous les représente rapidement. André Gratchov, politologue, écrivain, son dernier livre, Le passé de la Russie, est imprévisible chez Alma Éditeur. Frédéric Ponce, journaliste à Valeurs Actuelles, auteur de Poutine, chez Kalman Levy, Igor Rechignac, membre du collectif Euromaïdan, et Laure Delcourt, spécialiste de la Russie, chercheuse à l'IRIS en ligne de Strasbourg. Alors, nous l'avons déjà évoqué, la Russie de Vladimir Poutine traverse de graves difficultés économiques. Depuis le début de l'année, le rouble ne cesse de chuter, l'inflation galope, et les capitaux continuent massivement de quitter le pays. La situation économique est-elle la limite du discours nationaliste de Vladimir Poutine? Petit tour d'horizon de la situation économique russe avec Maria Afonso.
Depuis un an, le rouble a chuté de plus de 40% face à l'euro. L'inflation pourrait atteindre 8% cette année et quelques 125 milliards de dollars de capitaux ont été investis ailleurs. La chute de la monnaie russe s'accompagne du plongeon des prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation russe. Une conjoncture que la Russie ne maîtrise pas, comme l'explique cette animation au titre évocateur « Pourquoi la Russie ne peut pas maîtriser les prix mondiaux du pétrole ».
Саудовская Аравия использует добывающие мощности примерно на 75% и легко может снижать и наращивать добычу на 50-100 миллионов тонн нефти в год.
Des trois principaux pays producteurs de pétrole dans le monde, la Russie est le seul à ne pas pouvoir ajuster facilement sa production. De ce fait, si la Russie réduit sa production, elle ne reprendra pas sa place sur le marché mondial. C'est ce que raconte ce petit dessin animé russe.
Un prix du pétrole qui est moins prévisible que les sanctions occidentales engagées à l'encontre de Moscou en raison de son rôle dans la crise ukrainienne.
En réaction, la Russie a décrété un embargo total sur les produits alimentaires européens et américains. Mais cet embargo renforce la hausse des prix sans profiter à l'industrie russe qui n'est pas capable de pallier la pénurie. Une trop forte chute des cours du pétrole avec dévaluation et inflation pourrait provoquer un fort mécontentement social. Vladimir Poutine s'appuyant sur les pétrodollars pour maintenir la paix sociale. Or, la chute du rouble et celle du pétrole, c'est un peu la double peine. Réflexion d'un Russe au volant de sa voiture.
Je vous dirai sincèrement que l'année a été dure, éprouvante et que la période est instable. Le rouble a perdu 30% de sa valeur. En conséquence, les prix ont augmenté, il y a plus d'inflation. Si je parle de ma situation, puisque je vais souvent en Europe, bien sûr que je ressens les effets sur mon budget et celui de ma famille d'une façon ou d'une autre.
Le rouble baisse parce que le prix du pétrole baisse, ce qui entraîne la fuite des capitaux.
C'est la perspective de sanctions élargies qui inquiète aujourd'hui les investisseurs. Même les entreprises allemandes, l'une des principales sources de capitaux étrangers pour Moscou, ont commencé à rapatrier les profits réalisés dans leurs filiales russes. Le rouble s'est affaibli et ceux qui suivaient la situation sur les marchés ont eu l'occasion d'investir ailleurs. Ce n'est pas le cas de tout le monde. L'analyste Maria Lippmann mentionne les nouvelles charges pour ceux qui restent.
Les dépenses pour la défense ont augmenté de manière significative. Alors le gouvernement impose de nouvelles taxes immobilières, des nouvelles charges pour les petits entrepreneurs et relève les cotisations de sécurité sociale.
Pour tenter de faire revenir les capitaux russes partis à l'étranger, Vladimir Poutine a promis une amnistie pour les fraudeurs.
Je propose d'amnistier complètement les capitaux qui reviendront en Russie, ce qui veut dire que tous ceux qui rapatrieront leurs capitaux et leurs actifs en Russie auront de solides garanties qu'ils ne seront pas questionnés sur la provenance de cet argent, ni poursuivis en justice et ne feront l'objet d'aucune mesure fiscale. Faisons-le maintenant, mais nous ne le ferons qu'une fois.
Le président russe a également exigé des mesures sévères pour faire passer l'envie aux spéculateurs de jouer sur les fluctuations du cours du rouble. Les autorités savent qui sont ces spéculateurs, nous avons les moyens de les contrer. Mais Vladimir Poutine n'a pas précisé s'ils sont russes ou étrangers.
Les vidéos qui nous ont servi à construire ce petit tour d'horizon de la situation économique russe sont disponibles sur la page RFI Carrefour de l'Europe. Alors, est-ce que la Russie est un colosse au pied d'argile qui veut répondre Lord Delcourt, peut-être ?
Oui, c'est un colosse au pied d'argile parce que certaines réformes clés pour l'économie du pays n'ont pas été réalisées, et ce, depuis de nombreuses années. Cela fait presque une dizaine d'années que Vladimir Poutine entend renforcer la compétitivité de l'économie russe. Avant de quitter la présidence en 2008, il avait établi certains objectifs pour faire entrer la Russie dans les économies les plus compétitives du monde. Or, certaines réformes clés, je le disais, comme par exemple la lutte contre la corruption, n'ont pas été entreprises et mettent en danger finalement la croissance et la situation du pays, avec bien évidemment tout ce que vous venez d'évoquer, donc la chute du rouble, la chute des cours du pétrole et les sanctions de l'Occident.
Est-ce qu'il y a une contradiction du discours de Vladimir Poutine, de son discours anti-occidental, puisque évidemment la Russie a besoin des produits, des technologies, des réseaux de financement européens, américains, et évidemment il se prive de tout ce qui pourrait l'aider à sortir son pays de l'ornière? Qui veut répondre, André Gratchev?
Écoutez, oui, de l'apparence, on peut voir une contradiction, sauf si on oublie que, après tout, il y a entre les deux logiques. Une logique de la recherche de l'efficacité pour son économie, et la logique du maintien et du renforcement de son régime, c'est-à-dire la logique politique. Poutine, évidemment, donne la préférence à la logique politique. Et de ce point de vue, le grand contraste de l'effet des sanctions est le suivant. Autant les sanctions, à la fois par leur action subjective, c'est-à-dire décidée par l'Occident, et objective avec la chute du pétrole et tout, peuvent frapper l'économie russe, autant sur le plan politique, ces sanctions occidentales sont en train de renforcer politiquement Poutine, parce que ralliant autour de lui, comme le chef en guerre, une grande partie de l'opinion publique russe.
Alors évidemment, Vladimir Poutine est très populaire. Jusqu'à quand, Frédéric Ponce? Puis je prendrai la question, évidemment, Igor Retchenyak aussi.
Alors, c'est sûr que l'économie, c'est un des points faibles de la présidence Poutine, ou des présidences Poutine depuis 2014. Les Russes sont allés dans la facilité en exploitant finalement cette économie de rente que leur offre le pétrole et le gaz, comme l'a fait l'Algérie, ou le fait l'Algérie en ce moment. Donc, ils n'ont pas créé de vrais appareils productifs, et aujourd'hui, avec ces sanctions, ils commencent à voir des difficultés. Mais il faudrait se garder d'être là encore trop européocentriste et d'avoir une vision trop financière ou économique de ce qui se passe. Les Russes sont capables d'encaisser beaucoup de choses, et c'est même inscrit dans leur histoire, dans leur livre d'histoire, qui n'ont jamais été aussi forts que dans les périodes difficiles, dans les périodes d'encerclement, de privation et de résistance au reste du monde. Donc ça, c'est un peu dans leur gène. Ils ont une énorme capacité de résilience, et j'ajoute, pour prolonger ce qui vient d'être dit par M. Gratchev, c'est que effectivement, ces sanctions exploitées par les médias du régime, qui donnent l'impression que l'ensemble du monde, ou une partie du monde occidental, et contre eux, eh bien, sont utilisés par le régime pour souder derrière lui la population. Et ça explique ces scores de popularité incroyables, et que les instituts de sondage les plus reconnus, il y en a de très sérieux en Russie, traduisent de mois en mois 85-87% d'opinion favorable.
Avec un effritement depuis quelques temps.
Non, mais il y aura fatalement un effritement avec les difficultés dans la vie quotidienne. Mais il ne faut pas croire ce que semblent croire et se réjouissent là, un certain nombre de gens aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de roquefort français ou de saumon norvégien à Moscou. Ça y est, Poutine va s'effondrer. C'est pas aussi simple, c'est pas du tout ça. Je pense que les Russes vont subir effectivement ces difficultés. Une partie des élites urbanisées les plus touchées par ces sanctions à Moscou et Saint-Pétersbourg vont se détacher un peu de Poutine, mais pour le reste de la population, le pays profond, le pays réel, les 62% qui l'ont élu la dernière fois, ces gens-là resteront derrière lui, derrière le régime, quoi qu'il arrive.
Alors est-ce que Vladimir Poutine n'est pas en train de rompre ce fameux contrat social? Vous vous enrichissez, vous gagnez de mieux en mieux continuer votre vie. Et c'est vrai que le niveau de vie des Russes a augmenté considérablement au cours des 10 dernières années, en même temps que le cours du pétrole augmentait. Quand il était très cher, les Russes vivaient bien, il s'effondre aujourd'hui et c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que Vladimir Poutine va pouvoir maintenir ce contrat social? Vous enrichissez, mais vous vous taisez. C'est très longtemps. Qui veut...
C'est pas aussi simple. C'est pas vous enrichissez, vous rapidement. C'est que effectivement, il dit aux Russes, nous sommes dans un moment très difficile. Il va falloir tenir le coup. Donc il tient l'opinion. Et en même temps, on le voit dans les derniers discours, dans les derniers gestes. Il est en train de se rapprocher de l'Occident, en tout cas de l'Europe, et de l'Europe qui est prête à traiter avec lui, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Je suis frappé de voir l'extrême modération du Kremlin sur l'affaire des Mistral. Poutine aurait pu aller très loin et exiger tout de suite beaucoup de choses. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il laisse la porte entrouverte avec Berlin, Paris, mais aussi Kiev et le président Porochenko à une solution de crise qui, à mon avis, ne saurait tarder dans les semaines
on
qui viennent.
On peut faire effectivement en quelques secondes la référence à l'étape de François Hollande à Moscou.
Ça s'est plutôt bien passé. C'est une très belle initiative à la fois de Poutine et de François Hollande. Pour une fois, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, mais ça indique que du côté de Kremlin et de Moscou, il y a la volonté de revenir un peu à la table de négociation.
Alors, moi, je pense que ce que fait Poutine, ce n'est pas du tout ce que vous dites. Finalement, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut voir une Europe divisée. Il veut négocier avec des pays indépendants. Il ne veut pas discuter avec toute l'Europe. Parce que toute l'Europe, ensemble, elle constitue une puissance. Les pays de l'Europe indépendamment, ils sont certes peut-être des leaders régionaux, mais ils ne sont pas capables de négocier avec Poutine au même niveau. Ça, c'est un point, je pense, à noter. Et donc, ce n'est pas une politique, de retour à la normale avec l'Europe. C'est plutôt une tentative d'imposer son projet euro-asiatique, qui, lui, son projet euro-asiatique, il est comment à l'opposé du projet européen.
Alors, justement, la différence, Igor Rechnev, vous avez le micro, regardez-le, entre Kiev et Moscou, est-ce que c'est pas à Moscou, on se fixe sur les valeurs de la Sainte Russie, les valeurs éternelles. Alors c'est par rapport aux valeurs occidentales perçues comme décadentes. Par exemple, on peut noter la loi sur l'interdiction de la propagande de l'homosexualité, un certain nombre de choses. Entre Kiev et Moscou, est-ce qu'il n'y a pas en ce moment un basculement entre un pays qui veut se rapprocher des valeurs occidentales, entre guillemets, et puis Moscou qui dit non, on les refuse?
Tout à fait. Et je pense que c'est ça le danger de l'Ukraine pour la Russie. C'est finalement que l'Ukraine constitue un projet alternatif. Un projet alternatif pour les peuples slaves, pour les Russes finalement. Et donc c'est pour ça que Poutine craint tellement que l'Ukraine réussisse. Parce que si l'Ukraine réussit, on peut très facilement imaginer peut-être pas un Maïdan à Moscou. Parce que finalement en Russie, la légitimation du pouvoir elle est un peu différente. Mais on peut très très bien imaginer un coup d'État en Russie pour renverser Poutine.
Lord Delcourt, qu'est-ce que vous en pensez, ce que vient de dire Igor Rechniak?
Oui, il y a certainement de la part de la Russie une crainte de contagion qui était déjà présente en 2004 au moment de la révolution orange en Ukraine et un an avant au moment de la révolution de la rose en Géorgie. Je voudrais souligner l'ambivalence de la relation russe à l'Occident qu'on voit très bien dans le dernier discours de Vladimir Poutine donc du 4 décembre puisqu'il appelle à la fois à renforcer les industries nationales, à mettre en place une stratégie de substitution aux importations, mais aussi à rester ouvert vis-à-vis de l'Occident, et ce dont a témoigné d'ailleurs sa rencontre avec François Hollande. Ce qui est certain, c'est que la Russie entend garder la main dans l'espace post-soviétique et notamment dans le voisinage partagé avec l'Union européenne. On le voit bien entendu en Ukraine, on le voit également dans les régions séparatistes géorgiennes. Je pense en particulier au traité qui a été signé récemment avec l'Abkhazie.
Alors quand même, André Grachev, dans les valeurs occidentales que j'évoquais à l'instant, il y a la démocratie, le respect des droits de l'homme, la liberté de la presse, des choses qui ont complètement disparu, qui ont existé furtivement en Russie du temps de Yeltsin, plus ou moins, mais qui ont complètement disparu.
N'oublions pas Gorbatchev.
Et Gorbatchev, dont vous avez été le porte-parole, forcément il y a quelques années. Tout ça, ça a complètement disparu dans la Russie de Yeltsin.
Ne simplifions pas les choses. La Russie ne redevient pas... l'Union soviétique, même avec cette situation de bras de fer avec l'Occident, qui, après tout, a des explications et peut-être tout simplement une différence des approches d'un côté comme de l'autre. Par exemple, pour ce qui concerne les valeurs slaves, orthodoxes, traditionnelles et autres conservatrices, il est vrai que Poutine est en train de s'en servir de ces valeurs comme de nouveaux ciments pour, précisément, comme vous dites, ce contrat social entre le pouvoir et la société qui est en manque de ciment. Effectivement, si, il y a quelques années, le prix du pétrole garantissait pour le pouvoir la capacité de satisfaire à peu près tout le monde, voilà, il est rompu, bien sûr, ce contrat social, et donc les valeurs du nationalisme et en partie de l'anti-occidentalisme, eh bien, une arme déjà maintes fois utilisée par les dirigeants russes et soviétiques par le passé pour rétablir cette liaison. Enfin, la grande question, pour combien de temps?
Évidemment, c'est une vraie question. Et peut-être que la question, elle est toute bête. C'est, tant que les Russes estimeront qu'il y a suffisamment de kalbasa, c'est-à-dire de saucisson, qui est quand même la référence, un peu l'équivalent du steak chez nous, eh bien, peut-être que les choses iront bien et qu'à un autre moment, ce sera beaucoup plus difficile. En tout cas, qui soutient aujourd'hui Poutine? Évidemment, les Siloviki, c'est-à-dire les forces de l'ordre, le FSB, l'armée, etc. L'Église orthodoxe, qui a pris un point considérable. On voit le patriarche Kirill à chaque fois qu'il y a une manifestation. Et c'est quand même une église extrêmement conservatrice, voire réactionnaire.
Et c'est très important dans l'évolution de Poutine. On parle de ce discours où il décrit la Crimée comme la nouvelle Jérusalem. Mais là encore, ça remonte à très très loin. Poutine, dès son arrivée au pouvoir en 2000, a fait le constat de l'état dans lequel se trouve la Russie, de l'état dans lequel l'Union soviétique a mis ce pays, et il trace des perspectives pour son pays. Et dans ce texte que je publie dans mon livre, là, qui est complètement passé inaperçu à l'époque. C'est un texte très long. C'est un peu le roadbook, l'agenda de Poutine sur les 20-25 ans qui suivent. Il est en train d'appliquer ça, c'est-à-dire la mise en valeur du modèle russe. Le modèle russe, c'est effectivement cette histoire qui va des tsars à aujourd'hui par les soviétiques. Poutine réalise cette synthèse, et c'est en cela que les Russes se reconnaissent en lui, mais une synthèse qui baigne dans l'orthodoxie russe. Et Poutine fait des stages, si on peut dire, ou des séminaires de réflexion ou de méditation sur le mont Athos, en Carélie, dans un monastère, le monastère de Valam. Il passe des jours et des jours au contact des moines, et il s'imprègne des analyses de ces moines, qui sont des gens extrêmement bien formés et connectés au monde. Et il a trouvé dans le patriarche Cyril son équivalent religieux. Et les deux hommes, Cyril et Vladimir Poutine, avancent de concert pour restaurer la puissance matérielle et spirituelle, politique, diplomatique, militaire de la Russie. C'est leur grand projet pour ce millénaire dans lequel ils sont les dirigeants de la Russie.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, que veut Monsieur Poutine? C'est indiscutablement la crise la plus grave depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire 1991. Est-ce qu'on peut parler d'un retour de la guerre froide ou c'est, disons, le début d'une période de paix un peu plus chaude? Qui veut rebondir, André Gratchov?
Bon, pour la guerre froide, si vous voulez, une figure de parole, surtout un cliché qui est trop vite, à mon avis, utilisé par les journalistes. N'oublions pas ce qu'était la guerre froide, c'était la confrontation des deux projets du monde,
de l'avenir de ce monde. Il y avait deux
idéologies à l'époque. Et n'oublions non plus, voilà, que l'alternative, d'une guerre froide était une guerre chaude. On est loin de cette perspective redoutable, bien sûr, mais ce qui est malheureusement là, à mon avis, c'est le retour du climat de la guerre froide, dans le sens de la confrontation, dans l'esprit des gens. Dans l'esprit des gens, je veux dire par cela, le retour à la politique, à la culture de la diplomatie des mégaphones, avec la rupture de la recherche de la compréhension des arguments des autres, le refus de la volonté d'entendre un autre. Et c'est ça qui peut nous conduire effectivement à une détérioration extrêmement dangereuse de la situation.
Lord Delcourt, Vladimir Poutine, un stratège, un tacticien, un être irrationnel, qu'est-ce que vous diriez ?
C'est difficile de répondre. Je pense qu'il est effectivement pragmatique. Il a déjà montré à plusieurs reprises. Et c'est pour cette raison que je rejoindrai l'analyse d'André Grachov en disant que ce n'est pas tout à fait un retour à la guerre froide. La dimension idéologique est absente. On est face effectivement à une confrontation de projets, à une confrontation d'intérêts. Projet au sens de stratégie, mais pas au sens d'idéologie. Et je ne vois pas cette dimension idéologique dans le parcours de Vladimir Poutine, même si effectivement il habille ses discours de valeurs religieuses de plus en plus fréquemment.
Si je comprends bien, vous dites plutôt un technicien qu'un stratège, et surtout pas un visionnaire.
Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Je ne vois pas Poutine comme un visionnaire.
Alors, André Grachov, je reprends le titre de votre livre. Le passé de la Russie est imprévisible. Pourrait-on le transformer en Russie, le passé est plein d'avenir?
Oui, en partie, vous voyez, je faisais attention à cette particularité, à cette spécificité russe, puisqu'il s'agit d'un pays qui est en quelque sorte manifeste toujours la peur de l'entrée dans la modernité.
C'est toujours le combat
entre... Elle trouve, si vous voulez, les ressources, mais aussi les exemples de sa gloire et donc de sa grandeur, plutôt dans son passé que dans les promesses de son avenir. D'où, par exemple, le retour permanent, enfin, à l'expérience et évidemment à la gloire de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais de ce point de vue, il y a un autre côté de ce même problème. Le passé de la Russie peut la rattraper et peut un jour redevenir son avenir.
Igor Retchina, qu'est-ce que vous diriez, vous qui êtes un observateur ukrainien, qu'il y a toujours ce dilemme en Russie entre Pierre le Grand et Nicolas Ier, entre le tsar modernisateur et puis l'autocrate?
Je pense que la Russie, finalement, elle se surestime assez fréquemment. Quand il y a eu toutes les réformes des dernières années, elle pensait qu'il arriverait à devenir occidental. Et puis, à un moment donné, elle arrivait au point où elle a réalisé que c'était impossible. Et donc, il se replie sur eux-mêmes, il recommence un autre projet, mais là encore, il se surestime. Donc, il faut pas... Je pense que dans un discours, quand on parle de la guerre froide, on peut plus en parler puisque la Russie n'est plus l'Union soviétique. Elle est beaucoup plus petite, que ça soit au niveau de potentiel militaire, potentiel humain. Et donc, finalement, le problème, il est pas dans cette dimension réforme ou autre. Le problème, c'est cette ambition de la Russie d'être un empire, d'être un très très grand pays, d'être finalement une sorte d'Union soviétique, mais d'être quelque chose d'un grand, important, et de se surestimer à chaque fois.
Frédéric Ponce.
Oui, je crois qu'il y a des deux en Poutine, du Nicolas Ier et du Pierre le Grand. Il y a en permanence la volonté d'ouverture vers l'Ouest, et ça Poutine l'a dit à plusieurs reprises, et Pierre le Grand est son grand homme. Tous les matins à Saint-Pétersbourg, il passait devant la grande statue de Pierre le Grand, il en a tiré des leçons, puisqu'il est un fils de Saint-Pétersbourg. Donc ouverture à l'Ouest en permanence, mais aussi cette tentation permanente de se recentrer sur le pays, de se tourner vers l'Est. Et c'est en cela que les Russes se reconnaissent aussi en lui, parce que Poutine essaie d'incarner avec beaucoup de difficultés cette grande tradition russe qui alterne ces différentes périodes. Et effectivement, ce n'est pas, on n'assiste pas à un retour de guerre froide, on assiste à une réaffirmation de la Russie, réaffirmation un peu maladroite, un peu chaotique.
Un peu mythique.
Mais oui, mais dans l'histoire des peuples, il faut toujours faire appel aux mythes. Et Poutine incarne aussi les mythes de la grande Russie.
Mais un peu illusoire, Frédéric, pour un pays qui ne produit pas de richesse.
Alors,
c'est un pays qui est vulnérable au cours du pétrole, qui a gagné la Crimée, certes, mais qui a perdu l'Ukraine et qui a durablement terni son image. Est-ce que l'homme qui dirige la Russie en ce moment, Vladimir Poutine, n'est pas dans une fuite en avant et a mis son pays dans une impasse à moyen terme?
Ça n'est pas une fuite en avant. Alors, c'est peut-être pas un grand stratège, mais c'est un bon tacticien. Le mot visionnaire a été prononcé. Alors, c'est facile, commode de résumer les gens à des qualificatifs comme ça. Est-ce que c'est un grand visionnaire? Oui, il l'a été en 1999 quand il dit ce qu'il veut faire de la Russie sur les 20 ans qui viennent. Et en même temps, il ne l'est pas, et les choses sont pas si simples que ça, il ne l'est pas parce qu'il n'a pas su avoir la vision de la bonne économie pour la Russie, de se sortir de cette dépendance pétrolière et gazière. Il en est là aujourd'hui. Et il essaie de ressouder les Russes en faisant avec son thème du produisons russe, développons russe. Qu'est-ce que ça donnera? Ça n'est pas gagné.
Je vais laisser le mot de la fin au plus jeune de la table, c'est Igor Retcheniak.
Moi, je vais revenir sur ça. Pour moi, je pense que c'est faux de dire que Poutine n'a pas su faire des réformes. Le problème de Poutine, c'est que lui, il veut rester au pouvoir, ainsi que la classe politique qui l'entoure. Et eux, pour rester au pouvoir, ils ont besoin de gagner, de garder la mainmise sur tout ce qui est industrie. S'ils laissent évoluer une classe moyenne, cette classe moyenne, elle va demander d'avoir une part...
Igor, en démocratie, vous connaissez des hommes politiques qui ne veulent pas rester au pouvoir? Citez-moi.
Oui, sauf que en Russie, il y a une question différente.
Mais Poutine l'a quitté...
pour mieux revenir.
Mais pour mieux revenir. Et rendez-vous en 2024, s'il est élu en 2018, est-ce qu'il s'immiscera dans le processus électoral au point de rester comme un dictateur? C'est un pari.
On peut rappeler qu'il a quand même évacué toute force d'opposition et qu'il contrôle tous les médias, ce qui évidemment rend l'alternative démocratique beaucoup plus disponible.
Et ça fait sourire à Moscou quand on dit ça, parce que beaucoup de Russes m'ont dit, et vous, Jacques Chirac élu avec 82%, vous vous souvenez pas? Eh ben, les Russes sourient de ça. Ils disent, nous, on est une démocratie qui a 20 ans, on n'a pas 200 ans de démocratie comme la France ou la Grande-Bretagne.
Allez, André Grotschap, d'un mot.
À mon avis, nous simplifions le tableau en identifiant la société russe avec Poutine. C'est très différent et ça évolue et pas dans le sens de Poutine à mon avis.
Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Vous pouvez réécouter cette émission via RFI.fr ou via les applications mobiles et tablettes de RFI, évidemment à télécharger gratuitement. Sur la page de l'émission RFI Carrefour de l'Europe, plein de choses vous attendent, comme par exemple les références de nos invités, sans oublier les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Paris, à Moscou, ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.